19h30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le monde aujourd'hui, Idrissa Sedoudia et Chérubin Dorsil à Washington, bienvenue à l'écoute de VOA Afrique.
Les grands points de l'actualité, 32 morts, 185 otages, bilan d'une nouvelle attaque de Boko Haram dans le nord du Nigeria.
La grogne sociale prend de l'ampleur au Gabon, des manifestations violentes ont affecté l'université Omar Bongo de Libreville.
Les émeutes ont conduit à l'intérieur de l'université et aux alentours, des bâtiments ont été brûlés au sein de l'université.
On fera le point avec un des leaders de la société civile gabonaise.
Rejet sans surprise par Israël d'un projet de résolution soumis au Conseil de sécurité de l'ONU réclamant la fin de l'occupation israélienne en Cisjordanie.
Nous reviendrons sur les réactions à l'annonce d'un rapprochement historique entre les États-Unis et Cuba. Et nous aurons, comme d'habitude, notre page économique, les sports et la musique. Mais d'abord, le journal.
À deux mois de l'élection présidentielle au Nigeria, la violence des insurgés de Boko Haram s'accentue. Une attaque du groupe islamiste dans le nord du pays a fait au moins 32 morts, tandis que 185 personnes ont été prises en otage. Lionel Gaïma nous en dit plus.
Cela s'est passé dans l'état de Borno, fief historique de Boko Haram. Deux sources locales décrivent ainsi l'assaut survenu en début de semaine, mais dont on n'avait aucune information due à l'absence quasi totale, comme le dit l'AFP, de réseaux de téléphonie mobile et des routes en mauvais état. Les islamistes ont attaqué le village de Gomsuri, à 70 km au sud de Maïdougouri, tuant 32 personnes et enlevant 185 femmes et enfants. Une milice privée chargée de la protection du village n'a pas pu résister aux insurgés, mieux armés, indiquent les responsables locaux cités par l'AFP. Boko Haram s'en est pris par ailleurs à une unité de l'armée camerounaise dans la région d'Amchidé, près de la frontière nigériane. Selon le ministère camerounais de la Défense, 116 islamistes et un soldat camerounais ont trouvé la mort dans cet affrontement. De même source, on apprend que des tirs d'artillerie de l'armée camerounaise ont atteint des cibles en territoire nigérian, mais aucun bilan n'a été communiqué. Ce n'est pas la première attaque de Boko Haram contre les militaires à Amchidé, où 8 soldats et plusieurs dizaines de civils ont été tués le 15 octobre dernier par la secte radicale.
Nouvelle journée de violence à l'université Omar Bongo de Libreville. Des bâtiments ont été incendiés et les forces de l'ordre ont bouclé le secteur. Les manifestants protestent contre l'arrestation de plusieurs leaders du mouvement. Les étudiants sont actuellement réunis en assemblée générale. Dieudonné Minlama Mintogo est président de l'Observatoire national de la démocratie au Gabon.
En fait, ce qui se passe à l'université, c'est la suite de ce qui a commencé hier. En fait, des événements ont débuté lors du procès d'un leader d'étudiants, M. Olof Firmin. Et pendant que les étudiants attendaient son procès, des manifestations des étudiants qui clamaient sa libération et deux autres leaders étudiants ont été arrêtés. Donc, ça a déclenché des émeutes hier. Et aujourd'hui, les émeutes ont continué à l'intérieur de l'université et aux alentours. Les bâtiments ont été brûlés au sein de l'université et il est actuellement difficile de pénétrer tant qu'il y a des échauffourées entre les policiers et les étudiants à l'intérieur de l'université.
Dieudonné Minlama Mintogo, joint par Nicolas Pinot.
En République centrafricaine, affrontement depuis mardi à Ambrès, ville située à 300 km au nord de Bangui. L'AFP parle de 28 morts. Bagassi Koura a joint Nedjad Ahmed, porte-parole de l'UPC, l'Union pour la paix en Centrafrique, parti membre de l'ex-coalition Séléka.
On avait entamé des médiations avec eux. Ils ont envoyé le chef du village pour venir voir le commandant qui était sur place. Nous avons dit, ben là, il n'y a pas de problème, ce sont les fils du pays, ce sont nos frères, ils peuvent toutefois venir s'ils veulent la paix. Nous allons rester ensemble avec eux, œuvrer pour que la paix revienne. Malheureusement, avant-hier, il y a un commerçant qui partait pour acheter des bétails. Ils l'ont tué avec son petit frère. Nous avons envoyé des gens pour aller mener des enquêtes. De là, ils ont tendu de l'embuscade, ils ont commencé à tirer sur les hommes. Ils sont partis mener l'enquête et ceux qui sont aussi dans la ville d'Embré. Voilà, c'est ça qui a déclenché les hostilités.
Et là, on parle de 28 morts.
Ben, 28 morts, okay. En tout cas, c'est un peu difficile qu'on vous donne vraiment le bilan exact, mais 28 morts, je m'en doute.
Nejad Ahmed, porte-parole de l'UPC, l'Union pour la paix en Centrafrique, VOA Afrique, a tenté en vain de joindre un membre des anti-Balaka.
L'organisation Reporters sans frontières a demandé au président camerounais Paul Biya de ne pas promulguer une loi antiterroriste, craignant des conséquences néfastes pour la liberté de la presse, selon un communiqué publié jeudi. L'opposition et la société civile camerounaise qualifient de liberticide cette loi adoptée la semaine dernière par le Parlement face à la menace grandissante que pose Boko Haram, le Boko Haram nigérian, dans le nord du Cameroun. Elle prévoit notamment la peine de mort pour les faits les plus graves.
Toujours dans le cadre de la lutte antiterroriste, le Parlement kényan a adopté aujourd'hui une série de mesures sécuritaires très controversées sous les huées et les cris de l'opposition et à la suite d'une échauffourée. Là aussi, les opposants, la presse et la société civile dénoncent des menaces pour la liberté publique et la liberté d'expression. Des mesures sévères sont prévues pour les médias qui distribueraient du matériel considéré comme préjudiciable à la sécurité nationale.
À Addis Abeba, nouvelle tentative pour résoudre pacifiquement le conflit qui déchire le Soudan du Sud depuis un an. Ces négociations sous l'égide de l'IGAD visent à trouver une trêve durable entre les forces du président Salva Kiir et celles de son ex numéro 2, Riek Machar. Les quatre précédentes tentatives sont restées lettres mortes.
L'ancien ministre rwandais Augustin Ngirabatware, condamné à 35 ans de prison par le Tribunal pénal international pour le Rwanda pour sa participation au génocide de 1994, a vu sa peine réduite jeudi à 30 ans en appel. Les juges d'appel l'ont acquitté du chef de viol constitutif de crimes contre l'humanité, mais ont confirmé sa culpabilité de ce génocide et d'incitation directe et publique à commettre le génocide. Six autres ex-responsables rwandais condamnés en première instance à des peines de 25 ans à la prison à vie dans un même dossier attendent leur procès commun en appel en 2015.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël affirme que la décision des Palestiniens de présenter un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies pour arrêter l'occupation israélienne ne fera que retarder la résolution de leur conflit. Pour l'État hébreu, les deux parties doivent plutôt se concentrer sur les négociations. Jean-Roger Bion.
La résolution présentée hier fixe un délai pour une solution négociée dont l'issue verrait la cohabitation des deux États, ce qui obligerait Israël à se retirer des territoires palestiniens. Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Paul Hirschhorn, a déclaré aujourd'hui que la stratégie palestinienne vise à éviter les négociations et encourage la poursuite du conflit.
And this conflict will only get resolved.
Ce conflit ne se résoudra que sur la table de négociation. Il serait bien pour la communauté internationale d'expliquer cette vérité aux Palestiniens et à les encourager à revenir à la table des négociations et à s'atteler aux tâches difficiles des compromis à faire des deux côtés et dont les Palestiniens doivent assumer leur part.
La résolution aura besoin de l'approbation de 9 des 15 membres du Conseil et l'un des 5 membres permanents peut la bloquer avec son droit de veto. Parmi ces 5, la Grande-Bretagne, la France, la Chine, la Russie et les États-Unis qui a utilisé le droit de veto pour empêcher par le passé toute action du Conseil contre Israël.
Les Nations Unies ont demandé plus de 8 milliards de dollars pour aider les quelque 18 millions de personnes affectées par près de 4 ans de conflits armés en Syrie. Ces fonds permettront de venir en aide aux Syriens déplacés dans leur propre pays et ceux qui ont dû fuir vers les pays voisins. Le niveau de l'aide est actuellement le minimum absolu pour la survie, a plaidé le responsable du HCR, Antonio Guterres, lors d'une conférence des pays donateurs à Berlin.
Alors que l'économie de la Russie est en chute libre, le président Vladimir Poutine s'est dit confiant ce jeudi que la relance se fera d'ici 2 ans et que la monnaie nationale, le rouble, parviendra à se stabiliser. Il n'a toutefois pas offert de nouveaux remèdes à la crise causée en partie par les sanctions occidentales et la baisse des prix du pétrole.
Les États-Unis continueront de se prononcer avec fermeté sur le droit du peuple cubain à la liberté. C'est ce qu'a déclaré le président Barack Obama après l'annonce de la normalisation des relations entre Washington et La Havane. M. Obama s'exprimait sur la chaîne de télévision ABC, précisant qu'il a fait savoir au président Raúl Castro que les États-Unis continueraient de promouvoir la démocratie et les droits humains. La décision historique du président américain est vivement critiquée parmi les républicains du Congrès.
L'auteur présumé des attentats de Boston, Djokhar Tsarnaev, est apparu jeudi en public pour la première fois depuis 17 mois, À l'occasion d'une brève audience, Tsarnaev, qui est âgé de 21 ans, a répondu aux questions du juge lors de cette audience technique déroulée en présence des familles des victimes. Son procès doit s'ouvrir le 5 janvier, rappelle l'AFP. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
La Minute Éco avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Alors, Moody's et Fitch divergent sur les perspectives du Gabon.
Et oui, l'agence de notation Moody's vient d'attribuer une première note de crédit aux émissions souveraines du Gabon, BA3, à long terme, avec des perspectives stables. Un diagnostic plus optimiste que celui dressé par son homologue Fitch, qui a abaissé la perspective du pays de stable à négative. Le Gabon est désormais évalué par les trois principales agences de notation internationales, Fitch, Standard & Poor's et Moody's.
Importante cimenterie à venir dans le Bas-Congo, en République démocratique du Congo.
Oui, un groupe de bailleurs dont la Banque africaine de développement et la Société financière internationale prêtent 135 millions de dollars pour la construction d'une cimenterie de plus d'un million de tonnes dans la province du Bas-Congo. Les deux actionnaires du projet, le Pakistanais Lucky Cement et le groupe Roji, apporteront le reste, soit environ 170 millions de dollars.
Et on reste à RDC avec le Grand Hôtel qui va officiellement retrouver son lustre, Nicolas, son lustre d'antan, il faut le dire, à Kinshasa.
Eh oui, Drissa Sédoudia connaît bien le Grand Palace Quinois, 5 étoiles avec 190 chambres, dont 24 suites, et sa table gastronomique, le Grand Hôtel, a fait peau neuve. Réouverture officielle le 15 janvier avec un nouveau nom. Ce sera soit Pullman Kinshasa Grand Hôtel ou Pullman Grand Hôtel Kinshasa, du nom de l'enseigne de haut de gamme du groupe Accor. Le choix n'est pas encore fait.
Et les Seychelles, bientôt membres de l'Organisation mondiale du commerce.
Oui, le Conseil général de l'OMC a approuvé la demande d'adhésion des Seychelles sous réserve de ratification par l'Assemblée nationale seychelloise. Le petit archipel de l'océan Indien devrait devenir le 161e pays membre de cette Organisation mondiale du commerce.
Merci Nicolas Pinault.
Et maintenant les sports avec heureux qui, comme Félix Yepasis Zembrou, qui nous présente la page sport. En football, la FIFA a un nouveau classement, Félix.
Oui, Idrissa, dans le dernier classement FIFA de l'année 2014, aucun changement n'est à noter dans le top 20. L'Algérie, 18e, reste numéro 1 africain devant la Tunisie, qui maintient sa 22e place. La plus grosse déception, c'est la Côte d'Ivoire. Les éléphants perdent 6 places en 28e position. Les progressions les plus notables sont à mettre à l'actif de la Zambie, 46e plus 16, et du Rwanda, 68e plus 22.
Corruption à la FIFA, peut-être un vote pour la publication ou non d'un rapport d'enquête.
Oui, le comité exécutif de la FIFA a entamé ce jeudi une réunion de deux jours à Marrakech, en marge de la Coupe du Monde des clubs. L'occasion pour ses membres de voter en faveur ou non de la publication du rapport de Michael Garcia, lequel a démissionné de son poste de directeur de la chambre d'instruction du comité d'éthique. Citant certaines sources internes, l'équipe croit savoir que la consultation devrait être serrée. L'enquêteur américain a écrit un rapport d'une centaine de pages et récolté 200 000 pièces à conviction au sujet de l'attribution des mondiaux 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar, afin de faire toute la lumière au sujet des soupçons de corruption qui entourent ces deux candidatures.
La polémique n'est pas près de s'arrêter au sujet de la mort d'Albert Ebossé.
Oui, il y a quelques jours, une autopsie pratiquée au Cameroun et dont les résultats viennent d'être révélés a contredit cette thèse, Idrissa. Ebossé est mort des suites d'une agression brutale avec polytraumatisme crânien, a affirmé le médecin camerounais André Mounet, qui a pratiqué une autopsie privée à la demande de la famille. Selon lui, Ebossé a été tué lors d'une rixe dans les vestiaires après la rencontre. C'est totalement farfelu. Ebossé est tombé sur le terrain et a été évacué par une ambulance à partir de là, réfute un dirigeant kabyle contacté ce jeudi par l'AFP. L'attaquant camerounais de la JS Kabylie, 24 ans, meilleur buteur du championnat de la saison passée, est décédé à la fin du match au stade du 1er novembre à Tizi Ouzou le 23 août après la défaite à domicile 2-1 face à l'ULMS Alger.
Merci Félix.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorsil et Idrissa Seloudia en votre compagnie pour cette édition du 18 décembre. Place au dossier du jour. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des migrants. L'Afrique du Sud est un grand pays d'accueil. Ces migrants viennent des pays voisins comme le Mozambique ou le Zimbabwe, mais aussi d'Afrique centrale et de l'Ouest. Le principal pays de départ est le Nigeria, suivi de la RDC, de la Somalie et du Kenya. Certaines statistiques gouvernementales chiffrent le nombre de ces migrants à entre 500 000 et 1 million. Beaucoup font face à des problèmes de documents de séjour et de coexistence avec les Sud-Africains. Pour en savoir plus, Timothée Donangma a joint à Johannesburg Aline Mogisho. Elle est chargée de communication du Forum de la diaspora africaine en Afrique du Sud.
Avec la nouvelle loi qui a été récemment publiée, il y a beaucoup de migrants qui ne seront plus soit renouveler leur permis ou n'auront pas accès au permis pour légaliser leur séjour en Afrique du Sud. Et ça, ça rend les choses très difficiles pour beaucoup de migrants. Ils ont changé également dans la loi portant sur la migration la question des documentations, surtout pour les gens qui ouvrent des petits commerces, dont la plupart ou certains migrants survivent en Afrique du Sud. Ça, c'est le plus grand souci des migrants pour le moment en Afrique du Sud. Récemment aussi, le ministère de l'Intérieur a annoncé que les réfugiés devront prouver qu'ils ont autant d'argent dans leur compte pour pouvoir avoir l'asile en Afrique du Sud. Ce qui est en principe inadmissible et à l'encontre de la Convention portant sur la protection des réfugiés en Afrique du Sud et ailleurs. Ensuite, il y a des problèmes de policiers qui souvent harassent les migrants par-ci, par-là. Mais ça, ça se gère petit à petit par des collaborations avec des associations qui combattent pour le droit des migrants.
On se rappelle qu'il y a eu en 2008 de nombreuses attaques xénophobes contre des migrants. Quelle est la situation de ce point de vue?
La situation n'a pas beaucoup changé. Certainement que pour le moment, on n'a plus de violence assez publique comme ce qui s'est passé en 2008. Mais le Forum africain de la diaspora a publié un rapport il y a de cela une année qu'il y a beaucoup de migrants qui meurent chaque année par les violences xénophobes. Leurs petits commerces sont attaqués par les locaux qui les tuent tout simplement parce qu'ils veulent avoir accès à leurs biens ou à leurs petits commerces. Et il y a plus de migrants qui meurent par la xénophobie aujourd'hui que ceux-là qui sont morts en 2008. Le vrai problème, c'est que le gouvernement n'a pas développé des mécanismes pour pouvoir gérer le problème des xénophobies. Les perpétrateurs ne sont pas punis. Et donc ça ramène la question des xénophobies au-delà des violences auxquelles les migrants font face du jour au jour, mais ça ramène ça à un niveau un peu plus supérieur qui est institutionnalisé. Le gouvernement, il faudra aussi souligner qu'ils ont annoncé un nombre de déclarations qui sont aussi xénophobes et qui ne mettent pas la vie des migrants en sécurité en Afrique du Sud. Donc, dans le milieu rural et dans les bidonvilles, les migrants continuent à mourir chaque jour, chaque mois, par des violences xénophobes. Ils sont perçus comme des compétitions, comme des gens qui sont à la base de tout le problème de pauvreté dans les milieux pauvres sud-africains. Et donc, ils continuent à mourir à cause de ça.
Aline Mogisho, chargée de communication du Forum de la diaspora africaine en Afrique du Sud.
Gros plan à présent sur l'élection présidentielle de 2015 au Nigeria. Muhammadu Buhari, le candidat des partis de l'opposition regroupés au sein du All Progressive Congress, a finalement choisi comme colistier et éventuel vice-président le professeur Yemi Osinbajo. Le ticket musulman-chrétien fera face au président Goodluck Jonathan et à son adjoint Namadi Sambo à ce scrutin prévu en février l'an prochain. Le professeur Osinbajo, pratiquement inconnu sur l'échiquier politique nigérian, est considéré comme un candidat neutre, mais sa désignation n'a pas été faite sans grincement de dents. Qui est-il et que pourra-t-il apporter au candidat Buhari? Quelques-unes des questions que Jacques Aristide a posées à Oudou Abdelahi Yaouba, professeur de sciences politiques et relations internationales à l'université Ahmadou Bello, située dans l'état de Kaduna.
Oui, Oui, professeur Osibanjo est un enseignant à l'université, comme son nom l'indique. C'est un professeur, mais membre du parti APC. APC, c'est un parti politique qui regroupe trois partis politiques, et même plus. Donc, c'est un regroupement de partis politiques contre le PDP au pouvoir. Donc, le professeur Osibanjo est membre de ce parti et puis il a été choisi. C'est vrai qu'il y a eu une bataille pour cette candidature. Il y a le chef du parti, Tinubu, qui voulait être aussi candidat à la vice-présidence. Mais finalement, on a choisi quelqu'un qui est considéré comme neutre dans le parti. Quelqu'un qui n'est pas très connu dans la politique du Nigeria.
Le professeur Osibanjo peut-il améliorer les chances de Muhammadu Buhari de remporter la prochaine présidentielle?
Oui, professeur Osibanjo, il est de l'ouest du Nigeria. Donc, le parti pense que Buhari étant du nord, avec quelqu'un du sud-ouest, comme ça, il y a plus de chances d'avoir le vote de la population de l'ouest, quoi.
Les nordistes ont reproché à Goodluck Jonathan d'avoir violé le principe non écrit de l'alternance entre le Nord et le Sud à la tête de l'État. L'éventualité d'une victoire Buhari Osibanjo pourrait-elle ramener un tel principe au Nigeria?
Oui, non, mais le problème de l'alternance entre le Nord et le Sud, les gens prennent ça comme si c'était un problème national. C'est le problème du parti PDP au pouvoir. Hein, c'est un accord dans ce parti-là, donc c'est pas... Ce n'est pas dans la constitution du Nigeria. Hein. Donc, si ça n'a pas été respecté dans ce parti-là, donc je pense pas que ça va affecter la politique du Nigeria. En démocratie, hein, il y a plusieurs partis politiques. Bon, les candidats vont participer aux élections. Donc, celui qui a plus de chance, celui que les Nigériens pensent qu'il peut diriger le pays, sera élu. Je pense que si les nordistes réagissent à ce manque d'accord, ce sont les nordistes qui vont sanctionner le PDP lors des élections, ce n'est pas tous les Nigériens.
C'était le politologue Oudou Abdoulaye Ayouba, joint à Zaria, dans le nord du Nigeria.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Deux sommets réunissant deux groupes de chefs d'État de la région sahélienne se tiennent ce jeudi en Mauritanie, avec entre autres comme sujet la sécurité régionale. Eddy Issango, pour en parler, a joint par téléphone Moussa Ahmed Ould Ahmed, il est le directeur du journal Bilad.
Ce processus de Nouakchott, les pays qui y sont membres veulent mutualiser leurs efforts pour réussir à s'opposer ensemble aux problèmes globaux qui se posent à la région, dont les problèmes sécuritaires, que ce soit le terrorisme ou la lutte contre les stupéfiants ou autres, ou que ce soit des problèmes démographiques, l'immigration, ou que ce soit des problèmes économiques ou des problèmes démocratiques. À côté de ces 11 pays qui sont membres du processus de Nouakchott, il y a ce qu'on appelle les G5. Les G5, ce sont les 5 pays sahéliens, c'est-à-dire la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad, qui ont en commun d'être traversés par cette zone sahélo-sahélienne qui est une zone de tous les dangers aujourd'hui, de tous les trafic et qui est surtout une zone de prédilection des bandes armées, surtout les islamistes. Ces pays-là veulent s'organiser en structure pour pouvoir bénéficier d'une aide promise par l'Union européenne qui est à peu près de 70, pour le moment, de 70 millions d'euros.
Vous parlez de cette aide de 70 millions d'euros alors que le président mauritanien a récemment critiqué les pays occidentaux de payer la rançon plutôt que d'aider à l'effort d'anéantissement des groupes islamistes.
De toutes les façons, lorsqu'il a parlé à Dakar, au forum de Dakar, il a condamné le versement des rançons parce que c'est réel. Par principe, c'est extrêmement difficile de vouloir combattre un fléau et d'un côté et de l'autre côté, de l'autre main, on lui verse de l'argent. Ça, c'est vraiment paradoxal et c'est extrêmement dangereux.
Pensez-vous que tous ces États pris ensemble peuvent faire quelque chose pour essayer d'étouffer ou de mettre fin à l'insécurité qui naît de la situation de la Libye, qui est en fait une poudrière aujourd'hui?
Il s'agit d'un défi global, le crime organisé, le terrorisme et tout ça, et qui se pose à tout le monde. Il faut, la réponse doit être elle aussi globale. Ça, c'est théorique. Mais dans la réalité, on a eu l'habitude ces derniers temps de se réunir ici et là et de proposer beaucoup de solutions théoriques sans jamais passer à la pratique. Est-ce que cette réunion va se traduire par une action concertée, réelle, efficace contre ces fléaux? Il est difficile de le dire pour le moment, on doit attendre un peu pour savoir. Personnellement, je suis très sceptique.
Moussa Ahmed Ould Hamed, journaliste, joint par Eddie Isango. Le Monde, aujourd'hui sur VOA Afrique, Barack Obama et Raúl Castro ont marqué un coup spectaculaire avec l'annonce d'un rapprochement entre leurs deux pays, les États-Unis et Cuba. Depuis hier, les réactions, en très grande majorité positives, Idrissa Seloudia, fusent de partout. De l'Asie à l'Amérique latine, on parle de décisions historiques, de gestes courageux et même de fin de la guerre froide. La normalisation des relations diplomatiques avec l'ouverture prochaine d'ambassades, en attendant la partie la plus difficile, la levée de l'embargo, vient mettre fin à plus d'un demi-siècle d'isolement de Cuba. Parmi les réactions en Afrique, notons celle de l'Angola, un pays qui entretient des liens très étroits avec Cuba. On se souvient que Fidel Castro avait aidé les forces de José Eduardo dos Santos lors de la guerre civile en Angola face à l'UNITA de Jonas Savimbi.
Oui, une occasion donc de rappeler que l'Afrique a des affinités marquantes avec Cuba, notamment dans le domaine de la musique. Johnny Pacheco.
La base incontestablement africaine, le rythme.
Oui, et on sait que c'était nous, en écoutant cette musique, que cela venait d'Afrique. Et c'est peut-être ce qui explique pourquoi cette musique ne nous était pas étrangère, des artistes comme Johnny Pacheco, Tito Puente ou Celia Cruz, pour ne nommer que cela, étaient tout aussi populaires en Afrique que chez eux ou aux États-Unis. On l'appelait charanga, pachanga, rumba, etc. Alors qu'ici, c'est tout simplement salsa, la même musique qui a fait danser des générations successives d'Africains avant que le rap ou le hip-hop ne prennent le dessus.
Et la musique était populaire à la radio, Idrissa, et les orchestres locaux jouaient cette musique et dans les booms et surbooms, ainsi que dans le club ou bar dancing.
Oui, et chez moi au Sénégal, avant Youssou N'Dour et son précurseur Lime Boop, et si ma mémoire ne me joue pas des tours,
c'est
les
possible,
orchestres
à un certain âge.
Parlant d'une certaine génération, les orchestres locaux reprenaient purement et simplement, pour ne pas dire singer, les chanteurs cubains à la même, jusqu'à chanter en espagnol. Je ne suis pas sûr si ce qu'ils chantaient était vraiment de l'espagnol. Vous parlez mieux que moi l'espagnol, cher Rubin. Écoutons pour voir.
Vaut mieux écouter.
Si no puedes correr por el trecho del vestido, la mulata Encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que pararear lo que la orquesta interpretó. Su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice...
Ah oui, ça c'était le Star Band de Dakar. Alors Gaby, l'espagnol... Prof.
Je peux quand même vous offrir des cours à domicile.
Voilà, donc, en quelque sorte, l'Afrique a influencé sur le plan musical Cuba, et Cuba, à son tour, a influencé l'Afrique. C'est la même musique, ce sont les mêmes origines. Voilà.
Ils sont très contents en Afrique aujourd'hui d'apprendre qu'il y a ce rapprochement entre les États-Unis et Cuba. Cette édition a été mise en onde par Isiakaba Amkoulel, accompagné de Aiden Outkou. Merci.
Comme on la connaissait bien, l'éviter con grand étude.